le 11e forum FNAIM UNIS Grand Paris le 21 mars 2024 au Cézé, en partenariat avec Drieux Combaluzier et Axéo sur Radio Immo.
Et oui, bienvenue sur Radio Immo, bonjour à tous, en direct du Cézé, le Conseil économique, social et environnemental dans le 16e, pour ce 11e forum organisé par l'UNIS et la FNAIM Grand Paris. Je suis ravie d'accueillir Loïc Quentin, président de la FNAIM.
Bonjour Bérénice.
Bonjour Benjamin Darmouni, président délégué de l'UNIS, Île-de-France et Grand Paris. Bonsoir.
Bonsoir Bérénice.
Et enfin Henri Buzicazo, président de l'IMSI et
aussi
animateur des débats et des tables rondes cet après-midi. Alors, un petit mot peut-être sur cet événement, Loïc, Henri, Benjamin.
Non, nous on est ravis. C'est un événement qui a rempli tous les objectifs. On est unis. Avec nos confrères de la FNAIM, ça fait la deuxième année que nous faisons ce Cézé ensemble. Se réunir est un objectif. C'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, nationalement, c'est plus complexe. Nous, dans notre pôle, on a décidé de mettre un coup d'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on a organisé cet événement ensemble, qu'on fera le salon de la copropriété ensemble, qu'on fera nos assemblées ensemble.
Donc les deux pôles, c'est les deux chambres du
oui,
Grand Paris.
Oui, le pôle FNAIM Grand Paris et UNIS Île-de-France et Grand Paris. Et donc on organise maintenant tous nos événements ensemble parce qu'on pense que parler d'une seule voix, c'est indispensable, surtout en période de crise, dans la crise que nous vivons.
Loïc, un petit mot peut-être justement sur cette union de ces deux chambres. Les chambres du Grand Paris, l'UNIS et la FNAIM.
Moi, ma réflexion et ma vision ne s'arrêtent pas aux deux chambres. Ça, finalement, ça concerne tout le territoire. Et l'UNIS et la FNAIM dans la globalité, parce qu'il faut avoir un grand syndicat puissant demain. Et moi, je suis pour une fusion accélérée. Et avec un engagement, moi, je suis engagé et avec une vision prospective pour qu'il n'y ait qu'un syndicat, parce que c'est essentiel. Et on le voit aujourd'hui dans cette période qu'on traverse.
Ouais.
Il faut unir nos forces face... je dirais un exécutif qui n'a toujours pas compris la dimension et n'a pas conscience des travaux à entreprendre. Donc je pense que l'union ferait notre force, voilà, et ce serait mieux, je dirais, de travailler ensemble que de continuer à être divisé. Donc moi, je suis pour un programme de fusion, de rapprochement rapide.
En tout cas, le message est passé. Henri, alors vous qui avez animé les débats, un petit mot peut-être sur l'événement lui-même. Donc c'est vrai que ça fait deux années que la FNAIM a rejoint l'UNIS pour cette organisation. Un petit mot justement sur cet événement et puis sur les échanges de la journée.
Je vais me permettre quand même une petite phrase sur la question de l'union et de la fusion. D'abord, je retiens que le propos du ministre, qui était très appliqué, circonstancié,
hein,
voilà, c'était pas parfois les mots enregistrés comme ça, c'est juste courtois. Bon, il y avait du contenu, hein, et il a salué l'initiative conjointe. Mm. Bon. Les pouvoirs publics, moi, quand j'entends, mais ça les arrange que face à eux, les corps intermédiaires soient pas unis, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Ils préfèrent un message simple, des demandes simples, plutôt qu'un éclatement.
Bien sûr.
De la demande. Voilà, c'est pour être très clair.
Bah déjà, en termes d'agenda, ça facilite la tâche.
Je retiens ce qu'il a dit, ouais. Il n'était pas obligé de le dire. Il aurait pu attaquer tout de suite sur les sujets. Ouais. Deuxièmement, quand on contribue à l'organisation d'un événement comme celui-ci, puisque j'ai été à la manœuvre, eh bien, quand vous invitez une personnalité extérieure, que vous le faites au nom des deux organisations...
Ah, c'est plus fort, ça a plus d'impact.
Ah ben, ça n'a rien à voir.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir, je le dis avec un petit peu d'expérience. Donc chaque organisation, elle pèse, elle compte, etc. Moi, très bien, je peux le faire pour une organisation et j'ai pas de honte à le faire pour une seule. Mais franchement, je suis beaucoup plus fier
bien
et
sûr.
Je vois l'impact immédiat. On dit deux organisations phares, on va dire. Hein. Mm. Bon, les deux organisations leaders organisent un événement, on demande à un parlementaire de venir, à une personnalité comme la patronne de la NIL, etc. Et ça ne fait pas un pli. C'est, voilà, c'est, mm. Alors, sur le contenu, d'abord, c'était très studieux. En étant animateur, on n'est pas le mieux placé pour dire si c'était réussi ou pas, sauf qu'on voit face à soi si les personnes sont stables, si elles sont nombreuses, si elles s'ennuient ou pas.
Les débats étaient quand même très intéressants.
Très intéressants, très riches. Les castings étaient très relevés, oui. Comme on dit, hein, du meilleur niveau. Et au-delà d'ailleurs de de personnalité du Grand Paris. J'évoquais la patronne de la NIL, c'est la NIL nationale, les parlementaires.
Roselyne Conan, oui.
Il y avait certes un sénateur de Paris, mais qui a parlé de sujets nationaux, et puis Lionel Costes.
Bon. Ouais.
Donc, on a évidemment une grande qualité d'intervenant. Des débats que j'ai trouvés très riches, très francs, très innovants, qui permettaient d'apprendre des choses. Je pense que quand on a passé là 3 ou 4 heures et qu'on est administrateur de biens, agent immobilier ou d'une autre profession, on a appris beaucoup de choses sur une loi qui vient d'être votée, sur les copropriétés dégradées et l'accélération de la transition énergétique, sur des textes en préparation, sur des textes qu'on voudrait voir apparaître, la fiscalité de l'investisseur, par exemple. Non, franchement, et je crois que c'était serein, oui. et très didactique et très riche d'informations.
Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pédagogie de la part des intervenants,
oui, oui, oui.
Que ce soit le sénateur Féraud, oui. Roselyne Conan, que ce soit Lionel Costes, vous aussi. Et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Donc, c'est vrai que la vidéo du ministre Guillaume Kasbarian, le ministre délégué au logement, qui n'a pas pu être présent ce soir, était très riche.
Oui.
On sent qu'il est investi. Vous l'avez également dit, Loïc Quentin, vous êtes optimiste quant à ce nouveau ministre, et on en a vu défiler pas mal ces derniers temps, trois en moins de deux ans. On a l'impression, et est-ce que c'est votre impression aussi, qu'il y a vraiment un dynamisme qui s'opère, une envie du gouvernement, peut-être avec le nouveau gouvernement Attal, avec cette nomination du ministre Guillaume Kasbarian, mais on a l'impression qu'il y a un nouvel élan et que le logement est enfin mis sur la table. Alors après,
ouais.
Je sais ce que vous allez me dire, c'est que des paroles pour l'instant.
Non, je ne dirais pas ça.
Mais est-ce que...
Moi, je ne dirais pas ça parce que d'abord, je crois dans la parole politique. Alors, je peux me faire avoir, mais aussi par la parole d'un chef d'entreprise. Je veux dire, la parole politique, elle a un poids particulier. Et je ne commence pas par dire, on me raconte des choses et en fait, ils ne le pensent pas. Et surtout que j'entends des choses qu'on n'entendait pas.
Oui.
La conscience de la crise, la conscience des difficultés de la transition environnementale, elle est là aujourd'hui, elle est clairement exprimée. Article 1, et je partage ça, je crois, avec les présidents de la FNAIM ou l'UNIS. Deuxièmement, les solutions. Alors, il y a deux sortes de solutions. Ce qui fait appel à de l'argent public, et je crois qu'on en a besoin. Typiquement, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas le sujet, mais le prêt au zéro, il faudrait remettre de l'argent pour qu'il soit plus puissant.
Il a été remanié, je rappelle à nos auditeurs.
Il exclut la maison individuelle et en gros...
Certains territoires...
Exactement, voilà. Il centre sur les territoires les plus denses. Il faut de l'argent. Le statut de l'investisseur. Alors, il faut un peu d'argent. C'est-à-dire que si on veut... que ça ne coûte rien, alors qu'on demande effectivement qu'en première approche, un investisseur puisse amortir, par exemple. Ben, s'il amortit, ça va être pris en compte par l'État. Il n'y a que des bénéfices derrière. Mais il faut donc ça, évidemment, c'est plus difficile pour un Guillaume Kasbarian. Et je reprends le propos de Daniel Dubrac, je crois que c'est elle qui disait, il faut aider le ministre. Voilà, moi, c'est le parti que je prends. Il a envie.
Il a envie, ça se sent.
Bon, on sent bien aujourd'hui que le ministre de l'économie, le président, disent non, plus du tout. Et même reprenons un petit peu d'argent à l'immobilier parce qu'on trouve qu'ils en ont trop. Ça, c'est le sujet. Mais surtout, ce qui est réglementaire, simplification, c'est un grand sujet, accélération, moi, je trouve qu'ils sont à la manœuvre.
Est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes ?
Je pense que la jeunesse a beaucoup d'atouts, mais l'expérience aussi. Ils sont jeunes, c'est un fait.
Mais justement, on a l'impression qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin de simplifier les choses, que c'est voilà.
Enfin, je crois que c'est
ils à relier. Ils veulent dépoussiérer un petit peu le système.
C'est à relier à la conscience de ce qui ne va pas. Notre secteur, tous les indicateurs, c'est le mot de Patrice Vergri quand il a passé le relais à Guillaume Kasbarian. Il lui a dit, je te passe un secteur dans lequel tous les indicateurs sont au rouge. Bon, c'était un entretien privé, j'ai eu la chance d'y être, enfin, petit comité, tous les indicateurs sont au rouge. Quand on voit que les indicateurs sont au rouge, qu'on soit jeune, moins jeune ou expérimenté, on en voit quoi. On en voit. Voilà, donc que le médecin soit jeune ou plus âgé, il voit quand même un état clinique extrêmement préoccupant du secteur et des chantiers. Que ce soit la transition, ça a pris du retard, c'est pas facile, que ce soit la construction évidemment, que ce soit les transactions, rien ne va plus. Il se bouge. Alors, les solutions, est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Je pense qu'il faut toutes les additionner. Il a cité le ministre, les investisseurs, les assureurs qui vont... Bon, c'est une solution. La surélévation, c'est une solution.
Si après, c'est beaucoup solution. Sur l'offre.
C'est l'offre. Sur la demande, et parce qu'il faudrait de l'argent, c'est plus compliqué.
Ouais.
Mais je veux dire qu'il y a quand même une panoplie de choses qui sont mises en œuvre. Moi, aucune ne me fait sourire. Elles sont toutes bonnes à prendre. il va pas y en avoir assez, il en faut d'autres.
Alors justement, les propositions, vous en avez faites à la FNIM, notamment plus concernant la demande sur les banques, la portabilité du prêt, où ça en est et quelles sont vos attentes par rapport au nouveau ministre ?
Moi, je suis un syndicaliste engagé depuis longtemps et je suis toujours déterminé malgré la morosité et puis une situation compliquée.
C'est la lune.
J'ai un espoir et je suis convaincu qu'on aura des preuves, je dirais prochainement, des engagements de faisabilité et d'accompagnement des propositions de la FNIM. Alors, je ne l'ai pas dit ce soir, Henri ne m'a pas donné la parole. J'avais quelques scoops que je n'aurais pas ici ce soir, mais...
Vous pouvez nous les dire.
Non, pas du tout, sur des victoires prochaines. Mais je crois que dans tous les cas, il y a une chose qui est essentielle. C'est que les 577 députés de l'Assemblée nationale sont tous convaincus qu'il y a une crise du logement.
Exact.
Enfin.
Tout le monde est convaincu. Enfin. Bien évidemment, les solutions sont différentes. Mais les solutions sont tellement différentes, mais qu'il y a quand même un consensus global. C'est que notre situation économique est confrontée à des recettes qui sont totalement exsangues. Il faudra des solutions simples, des solutions pragmatiques qui ne coûtent rien à l'État. Les propositions de la FNIM sont très simples. On a actionné d'abord la portabilité et la transférabilité des prêts. Je crois qu'on va être relayé prochainement sur cette disposition. Certaines banques y sont favorables. Ouais. Ça ne coûte rien à l'État.
Plus que pour le prêt in fine, en tout cas.
Absolument. Et je rappelle un geste républicain en 2009. Ouais. Les banques ont été secourues par l'État français à 20 milliards de prêts et 500 milliards de garanties. Et la deuxième solution, et la solution que l'on porte, c'est comment relancer une économie de la construction dans un contexte de crise. On a notre proposition, investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Permettre à un Français qui a investi dans l'immobilier locatif, qui le détient pendant 10 ans, les 10 ans suivants, il est exonéré de tout impôt sur ses revenus. Ça permet d'avoir une stabilité du parc. Ça permet effectivement de permettre à un Français, l'horizon qui a 55 ans, qui prend sa retraite, d'avoir un complément de revenus au moment où il prend sa retraite. Ça permet aussi de relancer la construction neuve, parce qu'on porterait cette exonération d'impôt sur les revenus à 15 ans en cas d'investissement dans le neuf et à 15 ans en cas d'engagement de travaux de rénovation énergétique et d'avoir une stabilité aussi du parc. Voilà des signaux qui sont simples, qui ne coûtent rien à l'État.
Et qui portent sur la demande.
Et qui porteraient que sur. Qui serait effectivement. Qui amènerait une charge pour l'État dans les 10 ans. C'est une façon aussi de s'adapter en période de crise lorsqu'on ne peut rien attendre. Je rappelle quand même une chose est simple, et je le dis souvent. Aujourd'hui, on s'endette de 500 millions d'euros par jour, 2 milliards tous les deux jours. Et au bout de 20 jours, on a consommé. On a consommé l'équivalent d'un porte-avions. Voilà, un porte-avions, ça coûte 10 milliards et on en consomme 17 par année dans ce pays. Donc il y a bien évidemment...
Donc il n'y a plus d'argent.
Il n'y a plus d'argent, il faut vivre avec. On ne peut pas continuer à espérer avoir un gouvernement et un État-providence qui redistribue. Ça n'est pas possible.
Benjamin ?
Moi j'ai envie de dire enfin, parce qu'on parle tous de prise de conscience du gouvernement, il est temps quand même. Il est temps qu'aujourd'hui on ait des politiques qui comprennent qu'on est en crise et qu'il est temps de prendre des dispositions pour sauver nos adhérents, pour sauver nos professions, parce qu'aujourd'hui c'est tous les jours qu'on a des agents immobiliers qui déposent.
Et c'est important de parler des professions. La FFB, la Fédération Française du Bâtiment, la semaine dernière a annoncé que 300 000 emplois seraient en péril, alors construction, logement, tout compris.
Mais évidemment, c'est une chaîne. Quand on est en crise, en promotion, quand on ne construit plus, derrière, on n'a plus d'entreprises qui travaillent. Et donc, effectivement, on parle de 300 000 emplois. Autre chose, on parle de la portabilité du crédit. Mais c'est un énorme geste pour le pouvoir d'achat. Il faut évidemment y aller. Et ça, c'est une disposition à prendre, une mesure à prendre assez facile. Finalement, c'est imposer aux banques de faire un effort financier qui, encore une fois, ne coûte rien.
Et là, ce que vous nous dites, du coup, Loïc, c'est que certaines banques seraient déjà enclines à
le faire et à accompagner. Mais de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Aujourd'hui, sur la perspective de l'évolution des taux, personne ne peut dire que les taux vont être dans un cycle baissier. On peut avoir un cycle de stabilité et ensuite un cycle haussier. Les tensions internationales ne sont pas...
Il y a des événements internationaux qu'on ne peut pas prévoir.
Non, voilà.
Après, le prochain mouvement des banques centrales devrait être à la baisse, mais bon, ce sera une baisse légère.
Mais c'est à la marge.
Ouais.
Tout le monde dit que ça sera fin 2024. Personne n'est Madame Irma sur ce sujet. Il n'y a personne qui sait quelle baisse de taux on aura fin 2024. Donc, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est nos pertes. On connaît tous les jours nos pertes, puisque on a des adhérents qui nous informent, qui évidemment résilient de temps en temps leur adhésion parce que.
On est
en contact tous les jours avec eux. Donc l'important, nous on pense, on fait tout ça pour nos adhérents. On est des syndicalistes. On veut défendre nos professions et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Henri, peut-être un petit mot juste sur le statut du bailleur privé dont on a tant parlé. C'est vrai qu'on l'attend avec impatience. On attend des annonces concrètes, pérennes. Qu'est-ce qu'il en est à ce sujet ? Est-ce que vous avez, vous qui connaissez beaucoup de monde, est-ce que vous avez...
Oh, puis des choses ont été dites tout à l'heure, y compris par le ministre dans le propos de fin. Après de nombreux rapports de grande qualité. Et on avait des représentants de ceux qui ont travaillé dans plusieurs de ces groupes de travail. On avait l'un des dirigeants du Conseil supérieur du notariat, les notaires ont penché là-dessus.
On avait, Maître Grimont.
Absolument. Le Conseil national de l'habitat, et Pierre Autus est venu nous en parler. Pluriance, l'association des majors de l'administration de biens, etc., etc. Des rapports, il y en a beaucoup.
Ce
qui est intéressant, c'est qu'ils sont extrêmement proches et en gros concordants sur l'essentiel. Alors, il y a une mission qui a été confiée à Anaïg Lemeur, députée du Finistère, qui est en cours.
Dont Guillaume Casbarian a parlé tout à l'heure.
Absolument, il a cité cette mission. Effectivement, elle a été commandée par le gouvernement. C'était avant qu'il ne soit ministre du Logement, mais clairement, il prend la suite. Qu'est-ce que va dire ce rapport ? Je vois mal comment il dirait des choses très différentes de tout cela.
Un énième.
Mais d'autant qu'elle auditionne ceux qui ont travaillé dans tous ces rapports. Donc elle va entendre qu'il faut la possibilité de mieux reconnaître les charges du propriétaire bailleur. Alors ça peut être par la voie de l'amortissement, ça c'est clair, par d'autres voies. En tout cas, il faut un statut fiscal qui soit simple, stable, équitable, lisible.
Et durable.
Durable, qui donne un rendement locatif correct. Je crois que les investisseurs ne veulent pas des choses magiques, mais correctes.
Correct,
voilà.
Oui,
et pour le reste, ils aiment la pierre. Donc, est-ce que le gouvernement, ensuite, traduira ça ? Et on a entendu aussi tout à l'heure le sénateur de Paris nous dire que ça peut difficilement être dans une loi de finances rectificative. Donc, ce sera dans la loi de finances pour 2025. Ça, ce qu'avait dit Elisabeth Borne, d'ailleurs. Donc, moi, mon espoir, mais il faut pousser en mêlée, c'est que le rapport Lemeur entraîne que dans le projet de loi de finances initiale pour 2025, on ait une fiscalité, comme on l'attend, sexy, si je puis me permettre l'expression, équitable du propriétaire investisseur dans le neuf et dans l'ancien rénové. Voilà.
Et surtout, qu'on donne une possibilité à l'investisseur de voir à long terme. Parce que là, chaque loi de finances, c'est un changement et ça provoque l'instabilité et donc force les particuliers à ne pas investir dans l'immobilier.
Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cet échange très intéressant. On se retrouve très bientôt sur Radio Immo.
Merci, Mérine.
Le 11e forum FNAIM UNIS Grand Paris, le 21 mars 2024 au Cézé, en partenariat avec Drieux Combaluzier et Axéo sur Radio Immo.